Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Certains sujets de santé reviennent de manière périodique en fonction du caractère saisonnier de certaines maladies, mais aussi en fonction des mouvements de population. C'est dans ce dernier cadre que s'inscrit la médecine du voyage, avec les conseils importants à connaître avant de partir. C'est quelque chose qui se prépare. La logistique d'un voyage implique bien sûr l'hébergement, la restauration, les transports et pourquoi pas les visites. Mais pour que tout se passe au mieux, il faut anticiper aussi du côté de la santé des voyageurs. Vérifier si le carnet de santé de vaccination est à jour, connaître les risques sanitaires précis en fonction des destinations, la qualité de l'eau, les risques de contamination, penser aussi aux variations de température, aux expositions particulières, insectes, animaux et parfois certains risques auxquels on pense moins, l'insécurité routière, les difficultés d'accès au traitement ou l'équipement des structures de santé. Alors comme chaque jour, vous avez la parole pour poser vos questions, pour témoigner, pour nous appeler, notre numéro WhatsApp, c'est le 33 7 61 18 46 41. Conseil aux voyageurs, comment préparer au mieux un déplacement? Quels sont les principaux risques quand on voyage en milieu tropical en particulier? Avec nous en studio, professeur Christophe Rapp, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital américain de Paris à Neuilly en région parisienne et président de la Société française de médecine des voyages. On va retrouver tout à l'heure à Fort-de-France le professeur André Cabier, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicale au CHU de Martinique. Avec lui, on va évoquer en particulier l'épidémie de dengue dans les Antilles. Et puis en fin d'émission, on parlera du programme Les Perles du Cœur de l'association Princesse Margot qui accompagne des enfants atteints de cancer. Du premier jour du diagnostic jusqu'à la fin du traitement, reportage d'Ophélie Lassen à l'Institut Gustave Roussy.
Priorité santé sur RFI.
Et c'est important de le dire, il est encore temps de le faire avant les congés d'été ou que l'on voyage sur la planète. Prendre rendez-vous pour une consultation du voyage. Professeur Christophe Rapp, ça consiste en quoi cette consultation et surtout pourquoi c'est important?
Alors, la consultation du voyage, elle est très importante car quand on voyage, bien sûr, c'est l'évasion, c'est le partage, c'est les rencontres, mais c'est l'exposition à des risques sanitaires et sécuritaires. Donc cette consultation, le plus tôt possible en amont du voyage, va permettre d'évaluer les risques sanitaires en fonction de la destination, de la circulation de certains agents, comme en ce moment, par exemple, les arboviroses, la dengue ou le chikungunya, et puis d'évaluer les vaccins, le statut vaccinal du voyageur et de recommander les principales mesures d'hygiène pour éviter les diarrhées qui sont la première cause de troubles chez le voyageur.
Certains peuvent se dire, si je pars en vacances ou en congé, j'ai envie de me changer les idées, j'ai pas envie de m'embêter avec des idées médicales. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Malheureusement, les statistiques montrent que les voyageurs sont malades pendant leur voyage. On considère qu'un voyageur sur deux va avoir des symptômes durant son voyage et que 30% des voyageurs vont avoir une diarrhée qu'on nomme souvent tourista. Donc finalement, les voyages peuvent être obérés par des problèmes de santé et voire des problèmes parfois graves avec des risques d'hospitalisation dans des lieux, notamment l'Afrique subsaharienne, où la prise en charge médicale peut être compliquée.
Alors, de l'information à transmettre donc aux voyageurs, professeur Rapp, des conseils en lien direct aussi avec les différentes destinations. Par exemple, en dehors de l'Union européenne, est-ce qu'un carnet de vaccination peut être obligatoire ?
Alors, il y a des vaccins obligatoires, effectivement, en dehors de l'Union européenne. C'est notamment pour l'Afrique subsaharienne, le vaccin contre la fièvre jaune, qui est obligatoire dans un certain nombre de pays et qui justifie l'obtention d'un carnet jaune avec un tampon spécifique d'un centre de vaccination international.
Ça veut dire que quand on voyage, on a à la fois son passeport et ce petit carnet jaune, c'est le passeport santé, on va dire.
Tout à fait.
Au sujet des vaccins exigés pour passer une frontière, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Au-delà de cette fièvre jaune, j'imagine qu'il y a quand même des conseils en fonction des destinations et des régions.
Alors oui, il y a de nombreuses recommandations en fonction des destinations. La priorité au départ, c'est d'être à jour de son calendrier vaccinal de routine. Et je pense en particulier à la rougeole où en France, les sujets ne sont pas suffisamment vaccinés et donc ils peuvent aller exporter la rougeole dans d'autres pays, et il y a de nombreuses épidémies qui l'expliquent. Ensuite, ça va être l'exposition au risque. Donc, par exemple, pour le péril fécal, ça va être vacciné contre l'hépatite A si on va en Afrique subsaharienne, ça peut être la typhoïde. Et puis ensuite, il y a des risques plus spécifiques. Si on va en Asie, on peut s'exposer à l'encéphalite japonaise dans certaines régions, et donc il faudra faire ce vaccin. Et on peut dérouler un petit peu de la même façon. Il y a maintenant un vaccin contre la dengue disponible, un vaccin contre le chikungunya. Et si on circule dans des régions où il y a des épidémies actives, il faut se préoccuper de l'intérêt du vaccin en fonction de son profil, l'âge et son statut médical.
Également des activités qu'on va faire, évidemment, si on fait une immersion en forêt ou si on va en centre-ville, ça ne va pas être les mêmes contraintes.
Bien entendu, l'évaluation du risque, elle va dépendre d'un séjour urbain, d'un séjour rural, de la notion de nuitée en zone rurale où on va s'exposer aux piqûres de l'anophèle qui transmet le paludisme. Dans la journée, ça va être des piqûres d'Aedes pour les arboviroses, etc. Donc il y a vraiment une micro-géographie du voyage qui justifie l'intérêt de la consultation, notamment sur un voyage complexe où on va aller dans plusieurs pays ou si on va s'exposer dans un safari où il y a par exemple des piqûres de tiques de bœuf qui peuvent donner des fièvres qui sont complètement méconnues des voyageurs.
Alors, Anopheles aedes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des moustiques, deux différentes espèces de moustiques qui transmettent deux types de maladies bien différentes, maladies parasitaires et maladies virales. Conseil directement lié aussi, et là c'est essentiel de le dire, à l'état de santé des voyageurs. Bien évidemment, quand on a une maladie chronique, c'est encore plus recommandé d'aller en consultation des voyages parce qu'il va y avoir des recommandations spécifiques, professeur Rapp.
Alors bien entendu, l'âge, les maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires sont des facteurs de risque de sévérité des maladies infectieuses et notamment du paludisme. Quand vous faites un paludisme, si vous avez un terrain fragile, la probabilité d'avoir une forme grave ou de décéder est bien plus forte. Donc il faut être très vigilant sur les voyageurs ayant des comorbidités en leur expliquant vraiment les mesures de prévention à leur disposition et en les vaccinant le mieux possible.
Alors, en termes de préparatifs, est-ce qu'il y a une sorte de trousse de médicaments type à emporter avec soi ? On a cette question de Naomi du Congo qui va bientôt se rendre en RDC, le pays voisin, et elle souhaiterait savoir quoi mettre dans sa trousse de secours pour éviter le palu, la toux, la grippe. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Mais en même temps, si elle est au Congo, passer du Congo à la RDC, ce n'est pas un changement radical en termes de géographie.
Oui, tout à fait. Dans ce voyage précis, ça ne change pas énormément le niveau d'exposition au paludisme ou aux autres risques sanitaires.
C'est peut-être plus l'accès aux médicaments dans certains milieux quand on voyage.
Alors, en effet, et notamment du fait de la contrefaçon en Afrique, il est recommandé d'avoir des traitements à disposition, son traitement chronique si on a une maladie chronique, et puis parfois même des antipaludiques si on doit faire un accès palus, parce qu'il y a un taux de contrefaçon qui n'est pas négligeable en Afrique sur le paludisme. Donc, il n'y a pas de trousse de pharmacie type, elle doit s'adapter aux patients. Pour le voyageur français qui va en Afrique subsaharienne, il faut les antalgiques, un antiémétique contre les vomissements, un antihistaminique en cas d'allergie à une piqûre d'insectes, des choses assez simples, un désinfectant de type chlorhexidine. Et puis cette trousse, elle sera élargie en fonction du profil du patient.
Et ça veut dire aussi que ça sert à ça, la consultation du voyage, on peut obtenir ces renseignements. Quelque chose de très important, en France, consultation du voyage pour les personnes qui vont profiter des semaines de congé pour rendre visite à la famille qui est restée au pays par exemple. Pour ces cas particuliers, quand on a changé de cadre de vie, voire même quand on est né en Europe et qu'on a changé de mode de vie, c'est une découverte de la zone tropicale. Là, il faut vraiment être extrêmement vigilant, professeur Rapp, parce qu'il y a certaines personnes qui se croient, en quelque sorte, immunisées.
Alors, c'est le vrai sujet de la prévention de la médecine, du paludisme en France, où la plupart des cas importés de paludisme surviennent chez des sujets d'origine africaine qui retournent au pays tous les 2 ou 3 ans. Et effectivement, ce sentiment d'immunité est complètement faux au plan scientifique. Et donc, ils sont naïfs vis-à-vis du paludisme. Ils doivent se protéger. Et donc, on les incite à venir en consultation du voyageur pour protéger les enfants et les adultes. On a ces dernières années en France plusieurs décès par an de sujets africains adultes qui n'ont pas pris de prévention contre le paludisme. Donc là, c'est impératif. Une famille qui voyage en Afrique subsaharienne doit consulter dans un centre de vaccination international.
Et pour bien rappeler, ça veut dire les cachets, la prophylaxie qui se commence la veille du départ, une semaine après le retour, le répulsif, dès qu'on s'expose à des piqûres de moustiques, Et la moustiquaire imprégnée,
et
c'est 1, 2, 3.
Ouais. Oui, voilà, c'est vraiment, il y a une synergie des mesures de lutte.
Alors, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, on va s'arrêter sur une autre de ces maladies transmises par les moustiques, la dengue. Mais tout de suite, on passe à un cas concret. Premier auditeur en ligne, on part pour la Guinée.
RFI à Conakry, 89.9 FM.
Et c'est Faudet qui est avec nous. Bonjour Faudet.
Oui, bonjour Caroline, bonjour professeur.
Alors, vous avez 28 ans, Faudet, déménagement en projet pour les études. Qu'est-ce qui se prépare pour vous exactement?
Voilà, dans à peu près 3 mois, je dois me rendre en Union en Fédération de Russie pour les études de doctorat.
Alors, études de doctorat en Russie, vous allez arriver là-bas fin septembre, c'est ça?
Oui, fin septembre, oui.
Et qu'est-ce qui vous préoccupe en particulier? Vous montez-vous au nord? Qu'est-ce qui vous... Nord-Est? Qu'est-ce qui vous préoccupe en particulier?
Voilà, ce qui me préoccupe en particulier, c'est par rapport à la température.
Ouais.
Parce que j'ai appris qu'en Guinée, la température peut aller jusqu'à 38 degrés. Mais ouais. J'ai appris en Russie que la température peut descendre jusqu'à moins 10 degrés.
Moins 10 degrés en hiver quand il ne fait pas trop froid, parce que ça peut descendre bien en dessous. Hein, le climat continental, il est particulièrement rude en hiver. Vous avez déjà échangé avec des personnes qui vivent dans cette région?
Oui, j'ai échangé avec mes amis guinéens qui sont déjà sur place.
Ouais. Ils vous ont dit quoi? Ils avaient du mal à supporter ce choc thermique?
Oui, en tout cas oui.
Le choc thermique, c'est dur à supporter du point de vue de la santé ou du point de vue du moral?
Les deux à la fois.
Donc vous avez des questions par rapport à cette grande différence de température qui va vous tomber dessus dans quelques mois, Faudet. Allez-y.
Voilà, maintenant la première question est que comment je dois me préparer maintenant à l'amont avant mon voyage. Comme le voyage est septembre, donc qu'est-ce que je dois faire maintenant là pour mieux préparer mon voyage?
Est-ce qu'il y a des moyens, professeur Rapp, comme le demande Faudet en quelque sorte, de s'adapter à ce changement de température, on peut même dire un choc thermique?
Alors, je crois qu'il faut rassurer monsieur, en fait, le corps humain est bien fait et l'acclimatation, elle se fait. Même si les différences de température sont importantes, le corps est capable de s'acclimater. Pour s'acclimater, il faut être en bonne santé, en bonne forme physique et il faut faire du sport. L'endurance, hein, la course à pied, etc., va préparer à l'acclimatation. Ensuite, sur place, il devra, effectivement, dans les périodes de grand froid, porter plusieurs couches de vêtements, hein, ce qu'on recommande, c'est d'avoir plusieurs couches, dont une couche étanche, et puis protéger les extrémités avec les gants, le bonnet, etc., pour éviter le froid et avoir des bottes, sous réserve de ces mesures et de bien s'hydrater. Il va supporter les grands froids en s'exposant de façon brève au départ, et ensuite il va se rendre compte qu'il peut tolérer des expositions en froid de durée de plus en plus longue.
Et Faudet, vous équipez sur place, hein, vous équipez pas contre le froid avant de partir. Achetez bien vos vêtements en Russie, c'est pas un conseil santé, ça c'est un conseil pratique, parce qu'en général, quand on va dans les pays froids, c'est là où ils ont les meilleurs vêtements pour vous protéger. Ce que vous trouverez, même si c'est excellent ce qu'on trouve sur les marchés à Conakry, ça sera absolument pas adapté. Donc attendez éventuellement d'être à Moscou pour acheter vos vêtements d'hiver. Hein.
D'accord.
Ouais.
Et vérifier les vaccins aussi. Hein. Vérifier les vaccins, parce que là, vous allez être étudiant. En Russie, ils ont des étudiants de tous les pays du monde. Donc, il y a un brassage de population. Il faut vérifier la vaccination contre la rougeole et vous faire vacciner contre la méningite, hein, qui n'est pas la même que celle en Afrique qui circule, parce qu'il y aura un brassage de population.
Donc, ça veut dire ne pas hésiter à aller faire aussi une petite consultation du voyage, y compris quand on vit à Conakry. Ce n'est pas uniquement dans le sens nord-sud, c'est aussi dans le sens sud-nord. C'est tout aussi essentiel. La santé de tout le monde est absolument essentielle quand on change de cadre. Un grand merci pour cette question, Faudet. Et le meilleur, hein, pour vos études de doctorat, il y a aussi des précautions en fonction de l'âge des voyageurs. Sur WhatsApp, Astrid, qui vit en Belgique, explique qu'elle va bientôt partir pour Kinshasa avec son bébé qui n'a que 4 mois. Elle voudrait savoir, avant de voyager, quelles dispositions elle doit prendre sur le plan médical pour protéger son bébé des infections. On pense forcément au palu, là.
Alors, on pense au paludisme, mais à 4 mois, en réalité, les recommandations des spécialistes sont de différer le voyage parce qu'on ne peut pas vacciner un enfant avant 6 mois contre la fièvre jaune. Les antipaludiques à 4 mois en fonction du poids du nourrisson, c'est un peu compliqué. S'il fait plus de 5 kilos, ça peut fonctionner.
Ça veut dire que si on a eu un bébé en Europe et qu'on veut partir en Afrique subsaharienne, le mieux, c'est d'attendre quoi ? Au moins 6 mois ?
C'est au moins 6 mois. La fièvre jaune, c'est normalement 9 mois. Ça peut être 6 mois si un séjour impératif. Idem pour la rougeole, on ne vaccine pas aussitôt. Donc un enfant de moins de 6 mois, il n'est pas suffisamment immunisé pour partir en zone subsaharienne.
Ça, c'est une réponse qui est assez claire. Astrid, qui a aussi le mal de mer, le mal de l'air, elle voudrait savoir s'il y a des moyens de l'éviter.
Alors, les moyens d'éviter, il y a des petits moyens, il y a des petits antihistaminiques, il y a la notamine, il y a des patchs de scopolamine, il y a des petits moyens pour éviter le mal des transports. Mais c'est pas très facile. Il faut faire un travail un peu sur soi toujours arriver en bonne forme physique, bien s'hydrater. Et puis, il y a ces petits compléments de médicaments, mais qui ne sont pas d'une efficacité parfaite.
Alors, d'autres questions à venir, professeur Rapp. On va poursuivre notre échange. Ce sera juste après Maître Gazonga, les jaloux saboteurs sur RFI.
Mesdemoiselles, messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller ?
Ok, d'accord.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Ce qui ignore mais du tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème.
Priorité santé sur RFI, quels préparatifs avant de partir en voyage ? Prévention, vaccination sur place, éviter les mauvaises surprises et les accidents. Toujours avec le professeur Christophe Rapp, infectiologue à l'hôpital américain de Neuilly en région parisienne. Savoir s'adapter aux différentes situations, à sa destination comme à son état de santé. Le témoignage, les questions d'un auditeur qui est aussi un grand voyageur. C'est Roland Cotonou au Bénin. Il nous a laissé ce message sur le répondeur de l'émission sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41. On l'écoute.
Bonjour, priorité santé. Je m'appelle Roland, j'ai 26 ans, je vis à Cotonou au Bénin. J'ai beaucoup de questions concernant le thème du jour. Il se trouve que j'ai un travail qui m'amène à beaucoup voyager, surtout en Afrique et en Asie. En 3 ans, j'ai eu au moins 5 intoxications alimentaires, je vous avoue, en étant à l'étranger. À vrai dire, je ne sais pas si c'était des intoxications alimentaires ou des gastro, je ne sais pas, mais j'ai eu plusieurs fois des diarrhées, excusez-moi du terme, répétées et des vomissements quand je mangeais des plats que je n'avais pas l'habitude de manger, quoi. Surtout en Asie. Donc, je me demande si je dois consulter un médecin avant chaque déplacement pour limiter les dégâts, on va dire, quoi. Ou je ne sais-je. Est-ce que le faire pourrait m'aider? Avant de manger un plat à l'étranger, que faire pour limiter les intoxications alimentaires? Est-ce que j'ai des médicaments à prendre? Ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a un rituel propre à avoir, quoi? Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques pour les éviter? Comment différencier une intoxication alimentaire d'une gastro? Et enfin, est-ce qu'enchaîner les intoxications alimentaires peut être dangereux pour mon organisme?
Alors, professeur Christophe Rapp, Roland, grand voyageur, le problème, les intoxications alimentaires, il ne sait pas trop comment s'y prendre. En tout cas, il a l'air d'être aussi aventurier quand il passe à table, et c'est peut-être un conseil là-dessus qu'il faut lui donner.
Alors tout à fait, hein, la diarrhée, c'est la première cause de troubles de santé chez le voyageur et elle se transmet par la nourriture plus souvent que par l'eau et puis par les mains sales. Et donc il y a quelques conseils de prudence, hein, c'est effectivement de manger des aliments bien chauds et bien cuits, hein, ça doit être cuit à 60 degrés, c'est d'éviter les glaçons, c'est d'éviter ce qui est fait dans la rue. C'est peler et laver les fruits avant de les manger. Bon, il y a un certain nombre de petits principes comme ça. C'est se laver les mains, bien entendu, le plus régulièrement possible. C'est tous ces petits moyens qui vont éviter l'infection du péril fécal qui va se traduire par une diarrhée. Il n'y a pas de traitement préventif recommandé. Il n'y a pas d'indication à prendre des antibiotiques en prévention. Ça ne fonctionne pas et c'est recommandé à des terrains très particuliers. Donc, c'est un peu un fait difficile à prévenir, mais l'ensemble des règles de prudence va diminuer un petit peu l'incidence des épisodes de diarrhée.
Moi, j'ai une technique, c'est du riz, du riz, du riz. Et ça, en général, ça marche bien. On va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et en ligne avec nous, c'est Daniel. Daniel, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors,
bonjour,
vous aussi, vous êtes un grand voyageur. Votre travail vous emmène vers quelle destination?
Bon, mon travail m'amène dans l'Est africain, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et Dar es Salaam, souvent en Tanzanie. Mm-hmm. Alors, d'un moment à l'autre, je voulais aller au Kenya pour participer à une conférence internationale.
Ouais.
J'ai des soucis là qui m'accrapent par rapport à la prévention du palu. Souvent, quand j'arrive, il faudrait que je prenne des antipaludéens. Pour essayer de prévenir le palu. Sauf que j'ai des soucis dans le sens que, quand je viens d'apprendre, je ne sais pas s'il faut que je fasse la médecine préventive ou que si j'ai répété la plupart du temps, est-ce que ça ne peut pas avoir des conséquences sur ma santé?
Daniel, moi j'ai une question. Vous vivez à Kinshasa?
Ouais.
Donc vous êtes aussi exposé au palu à Kinshasa?
Ouais.
Vous dormez sous moustiquaire? Vous avez des mesures de prévention de la transmission du palu?
Oui, je dors sous moustiquaire imprégné. Il y a aussi des fois, j'utilise des tubes là, antifongiques pour lutter contre le piqûre des moustiques à Kinshasa.
Ouais. Mais pourquoi vous considérez que vous êtes davantage exposé quand vous partez au Kenya, au Rwanda, que chez vous à Kinshasa?
Bon, ça veut dire que les palus, c'est à l'est. Alors, c'est pour cela que toutes les fois que je dois quitter, il faudrait que je prenne toujours, je fasse la médecine préventive pour éviter à ce que je... Parce que les soins dans l'Est d'Afrique, c'est très cher.
Ah.
Alors, pour éviter à ce que j'ai des gaspillages.
Mais vous avez déjà fait des crises de palus quand vous étiez dans ces voyages professionnels à l'est?
Bon, pas tellement. Quand j'utilise souvent des antipaludéens, non.
Ouais, des antipaludéens, c'est-à-dire des répulsifs? Vous mettez du vaporisateur avec de l'insecticide?
Oui, des fois, on utilise des insecticides dans les champs, mais les antipalidés, là, il arrive des fois que je prenne, par exemple, ce qu'on appelle le quartem. Mm. Là, ça peut prévenir, par exemple, après 2 mois, il faudrait que je reprenne encore la cure pour éviter que je tombe sous les lits.
Ouais. Alors, le professeur Christophe Prapp écoute attentivement ce que vous venez de dire et va vous donner des conseils adaptés. Je vous en prie, professeur.
Bonjour, oui, bonjour monsieur. Alors, en fait, dans votre cas, effectivement, l'exposition au paludisme, elle est plus à risque à Kinshasa qu'au Kenya, où il y a finalement assez peu de paludisme, notamment à Nairobi, dans les capitales, et au-dessus de 2500 mètres. Donc, finalement, vous êtes exposé au quotidien. Donc, dans votre cas, quand vous circulez dans une région où il y a du paludisme, la discussion n'est pas celle de prendre un antipaludique en préventif. Ça n'a pas d'intérêt. C'est celui de diagnostiquer une fièvre. Quand vous avez une fièvre, vous devez, dans la journée, faire un frottis sanguin goutte épaisse et, à ce moment-là, vous prendre un antipaludique curatif. Vous ne devez pas, comme vous le faites, prendre des antipaludiques de temps en temps, du coartem, dès que vous avez la sensation de fièvre ou des maux de tête. C'est souvent ce que font les sujets qui résident en zone d'endémie, mais ce n'est pas le bon conseil. Chez vous, c'est la fièvre doit vous faire penser au paludisme et vous faire consulter dans la journée pour faire un diagnostic précis et vous donner un traitement curatif.
Mais faire un diagnostic, pas passer directement aux médicaments, ça c'est important.
Voilà,
hein.
Il faut passer par l'étape laboratoire parce qu'en Afrique, les causes de fièvre ne sont pas que liées au paludisme. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. Il y a aussi de la dengue, du chikungunya, d'autres arboviroses qui peuvent mimer le paludisme.
Donc c'est important, arrêtez de prendre ces médicaments par vous-même. Protégez-vous quand vous êtes en voyage, aussi bien avec la moustiquaire, avec le répulsif. La crème antifongique, ça n'a pas forcément d'intérêt.
Non, c'est des répulsifs cutanés. Et encore, quand vous allez hors des capitales, le palu au Kenya, ça va être hors des capitales. Mais dans les grandes villes et en altitude, il n'y a pas de paludisme.
Mmh. Voilà donc pour ces conseils. On vous remercie infiniment, Daniel, pour votre appel. Très bon voyage au Kenya. On a aussi un auditeur maintenant qui voyage. Il est concerné par une maladie chronique. Il a eu récemment un problème de santé. On le retrouve en Côte d'Ivoire, c'est Landry. Bonjour Landry.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Alors vous avez 30 ans, je disais sérieusement un sérieux problème de santé il n'y a pas très longtemps. Et en plus de cela, vous êtes atteinte de diabète de type 2, hein, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Alors ce problème de santé récent et en urgence, c'était quoi?
Alors donc du coup, 2 semaines après mon hospitalisation, pendant laquelle on a décidé mon diabète de type 2,
ouais.
J'ai eu une embolie pulmonaire bilatérale.
Ouais.
Donc je suis arrivé à l'hôpital en fait en urgence absolue. J'ai été admis en service de réanimation. Et donc à la sortie de mon hospitalisation suite à l'embolie pulmonaire, les médecins m'ont mis sous traitement d'anticoagulants.
Mmh.
Journalier et aussi ils m'ont recommandé en fait le port de bas de contention.
D'accord. Excusez-moi, j'ai une question, Landry. Votre diabète de type 2, il a été dépisté à quelle occasion? Est-ce que vous étiez en malaise? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, j'étais en malaise. Donc en fait, j'ai fait plusieurs jours à la maison où je me sentais faible, fatigué. J'urinais beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, ne comprenant pas, donc j'ai appelé mon médecin d'entreprise qui m'a recommandé en fait de me rendre en urgence à l'hôpital.
Mmh.
Donc une fois arrivé à l'hôpital, ils m'ont décelé une acidose, que j'étais en acidocétose diabétique.
Okay.
Donc j'ai été là aussi admis en service de réanimation, mis sous pompe insuline pendant à peu près 10 jours avant de sortir de l'hôpital.
Et ça veut dire aujourd'hui que vous êtes traité pour votre diabète afin de l'équilibrer, c'est ça?
Alors aujourd'hui j'ai un diabète équilibré, j'ai une hémoglobine glycée au-dessous de 6, mais je suis sous traitement, je suis sous Ozempic aujourd'hui, donc une piqûre par semaine.
Une piqûre par semaine. Donc on écoute votre question précisément, Landry, le professeur Rapp vous écoute, allez-y je vous en prie.
Alors ma question c'est qu'à l'occasion de l'émission l'année passée, j'ai découvert en fait que notamment, puisque je voyage beaucoup dans le cadre professionnel, qu'il serait indiqué en fait de faire des consultations pré-voyage.
Ouais.
Alors moi en fait aujourd'hui je ne suis plus sur traitement anticoagulant depuis à peu près 7-8 mois. Je continue quand même de garder la routine de porter mes bas de contention lorsque je voyage, en avion notamment, j'aimerais savoir est-ce que le fait de ne pas faire de consultation pré-voyage, hein, est-ce que ça fait de moi une personne à risque encore, vu que j'ai déjà eu un cas d'embolie pulmonaire en fait dans mon parcours?
Ben on laisse la réponse au spécialiste, professeur Rapp.
Oui, bonjour monsieur. Alors, donc vous êtes diabétique, bien équilibré, mais le diabète est un facteur de risque de gravité en cas de paludisme, de dengue, etc. Donc vous devez effectivement consulter avant de voyager et pour renforcer votre vaccination. Notamment, vous devriez être vacciné contre le pneumocoque qui donne des infections respiratoires, être à jour de tous vos vaccins et utiliser les vaccins les plus modernes si vous allez dans des zones où circulent certains virus ou certaines bactéries. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est concernant la prévention d'une récidive de thrombose, phlébite ou embolie pulmonaire. Le bas de contention vous est bien sûr recommandé pour des vols de plus de 4 heures. Il peut se discuter même la réalisation de piqûres anticoagulantes en fonction de votre terrain. Là, c'est compliqué. On ne sait pas exactement si on a trouvé des facteurs favorisant la thrombose dans votre dossier, mais ça peut se discuter. Donc, ces deux points justifient une consultation spécialisée de médecine du travail ou de spécialiste de médecine du voyage pour que vous soyez bien mis en condition pour les futurs séjours.
Donc, vous avez bien fait de nous appeler, Landry. La réponse est positive à votre question et très, très bonne continuation dans vos projets. On part maintenant pour les Antilles. En ligne avec nous, professeur André Cabier. Bonjour. Alors, on a un phénomène technique qui s'appelle la boucle. Je ne sais pas si vous avez entendu ma voix en écho. Ça se produit de temps en temps. C'est un peu un mystère des télécommunications. Vous l'avez compris, nous raccrochons. On retente de le joindre. On va échanger dans quelques instants avec ce spécialiste infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Martinique. Parce que dans l'outre-mer français, mais ailleurs dans le monde, on assiste ces derniers temps à une recrudescence de plusieurs maladies virales transmises par les moustiques. Et on va en parler avec vous, professeur Cabier. Bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Alors, merci d'être avec nous, malgré le décalage horaire. On parle donc de ce risque infectieux, en l'occurrence des épidémies de dengue en Martinique, mais aussi en Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'incidence de cette maladie dans cette région où vous exercez, dans la Caraïbe ?
Alors, c'est vrai que nous sommes, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, touchés régulièrement par des épidémies de dengue, environ tous les 2 à 4 ans. Donc, en fait, c'est une maladie qui est présente quasiment tout le temps, avec un faible niveau de transmission, donc un faible niveau de risque. Et puis, voilà, tous les 2 à 4 ans, on a des épidémies de grande ampleur qui vont toucher généralement toute la population et tout le territoire, ces épidémies durant plusieurs mois et puis finissant par s'arrêter.
Ces vagues d'épidémies donc, qui reviennent régulièrement, on l'a bien compris. Est-ce que les formes graves de dengue sont nombreuses ?
Alors, heureusement, il y a relativement peu de formes graves, mais à chaque épidémie, on déplore des décès et on a plusieurs dizaines ou centaines de cas d'hospitalisation pour des formes graves. Donc, c'est un des enjeux de cette maladie, c'est que même si le plus souvent, pour l'immense majorité des personnes touchées, c'est une infection virale aiguë qui se résout sans problème en 7 à 10 jours, eh bien, il y a ce risque de formes graves, voire de décès.
Ça veut dire qu'il y a des populations plus vulnérables, d'où l'importance de rappeler les signes d'alerte.
Alors en fait, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. La plupart des formes graves surviennent vers le 4e, 5e jour qui suivent le début des symptômes. Et à ce moment-là, il faut être vigilant sur l'apparition de signes d'alerte. Ces signes d'alerte, ce ne sont pas des signes de gravité, mais c'est des signes qui imposent absolument d'aller à l'hôpital ou au minimum de voir un médecin. Et donc c'est la survenue de douleurs au niveau du ventre, la reprise de vomissements importants, la survenue d'hémorragies mineures, par exemple au niveau des gencives, dans les urines ou au niveau génital. Et c'est certaines anomalies biologiques. Et enfin, la survenue de troubles du comportement, de troubles de la conscience, si on ne sait plus bien où on est, si on devient irritable, si voilà. Donc tout ça, ça doit alerter. Donc ça, c'est les signes d'alerte. Et puis comme vous l'avez dit, on a aussi des personnes qui sont à risque de formes graves. Alors, comme pour toutes les maladies infectieuses, c'est les nourrissons, les personnes les plus âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, des maladies cardiaques, de l'obésité, du diabète. Mais il y a une comorbidité très particulière qu'il faut bien connaître, c'est la drépanocytose, donc fréquente aux Antilles, fréquente en Guyane, mais aussi dans l'Hexagone, et qui peut toucher des voyageurs. Et effectivement, le couple dingue drépanocytose ne fait pas bon ménage. Et chez les drépanocytaires, on a un risque vraiment accru de formes graves et de décès. Et donc, les personnes drépanocytaires doivent tout faire pour éviter la dengue et, en cas de survenue de dengue, d'aller consulter très rapidement.
Ça veut dire, est-ce qu'on conseille par exemple à ces personnes drépanocytaires une vaccination ?
Exactement. Donc en fait, ça fait partie dans nos régions du public numéro 1 pour la vaccination contre la dengue. Et c'est une recommandation qui a été faite par les spécialistes qui prennent en charge ces maladies.
Alors là, on a fait les conseils santé. Maintenant, on va s'intéresser, ce qui est un petit peu plus votre spécialité. Quand on s'intéresse à ces épidémies de dengue, il faut parler des différents types de virus, des sérotypes. Pourquoi est-ce que c'est important ?
Alors en fait, ce qui est particulier avec la dengue, c'est qu'on n'a pas un seul virus qui provoque la maladie, on a 4 virus, on parle de sérotypes, puisque c'est comme ça que historiquement ils ont été découverts. On numérote ces sérotypes de 1 à 4, et en fait, lorsqu'on a été infecté par un sérotype, on considère que pendant de nombreuses années, on va être protégé contre ce sérotype. On ne pourra plus faire la dengue avec ce sérotype, mais par contre, si on rencontre un autre des 4 sérotypes, eh bien, non seulement on ne sera pas protégé, mais en fait, la deuxième fois qu'on va rencontrer ce sérotype différent, eh bien, on va risquer de faire une forme plus grave, parce que finalement, nos défenses reconnaissent le virus, mais pas complètement, et nos défenses vont mal réagir, et plutôt que de détruire le virus, vont plutôt faciliter sa multiplication dans notre organisme. Et c'est pour ça que finalement, les épidémies de dengue surviennent dans certains pays de manière continue, aux Antilles sous forme d'épidémies rapprochées, alors que par exemple pour d'autres infections de ce type comme le chikungunya dont on parle beaucoup à la Réunion et dans l'océan Indien en ce moment,
à Mayotte,
on est pendant généralement après une épidémie pendant 20 à 30 ans, il se passe plus rien, on n'a plus de grandes épidémies. Là pour la dengue c'est différent et on l'explique justement par la présence de ces 4 sérotypes différents de dengue.
Donc ceux qui pensent « j'ai eu la dengue, je ne risque plus rien », c'est complètement faux, on l'a bien compris. Un grand merci pour toutes ces explications. Très bonne journée, professeur André Cabier.
Merci.
On arrive à la
merci
conclusion à de notre échange, merci à vous. Professeur Rapp, la dengue, c'est une préoccupation outre-mer, mais on s'en soucie aussi en France métropolitaine. Hein.
Alors c'est une préoccupation en France métropolitaine parce qu'on a des cas importés de façon importante. Là, depuis le début de l'année, on est à plus de 1500 cas importés de dengue en France. Et en France, le moustique qui transmet la dengue, l'Aedes albopictus, est présent dans 80 départements. 50% de la population française est exposée. Et donc, on peut avoir des cas autochtones. Un patient qui va revenir de Martinique avec du virus dans le sang va être piqué par un Aedes du bois de Vincennes et transmettre la maladie à son voisin, puisque le moustique est paresseux, il vole sur 150 mètres. Mais donc, c'est ce qu'on appelle les cas autochtones. C'est un risque majeur en France métropolitaine. Et donc, il faut lutter contre les gîtes larvaires, les coupelles, les gouttières, les piscines, pour éviter la prolifération des moustiques.
Ce qu'on appelle la lutte antivectorielle. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé. Vous êtes infectiologue, ce n'est pas votre spécialité. Pourtant, on en parle. Les accidents de la circulation. On l'oublie trop souvent hein, quand on est loin. On a envie de laisser tomber un peu les contraintes, faire de la moto sans casque, monter dans une voiture à trop de monde, on va dire, sur la route, professeur Rapp, la vigilance, elle doit rester de règle.
Vous avez raison, hein. Le risque sécuritaire et l'accident de la route, c'est une des premières causes de rapatriement des voyageurs en France. Donc là, il faut être très, très prudent à l'étranger, surtout dans les transports, que ce soit transport en commun ou quand on conduit soi-même un véhicule de location. Les routes à l'étranger sont généralement peu sûres, donc il faut être très prudent.
Très prudent. Et puis un autre message, ça c'est pour les jeunes filles ou les petites filles qui rentrent au pays. Évidemment, il y a des risques qui mettent en cause leur intégrité physique. On pense aux mutilations génitales féminines. On est extrêmement vigilant quand on rentre au pays. La famille, c'est absolument génial. Il faut retrouver la famille que pour les bons côtés. en aucun cas pour vivre des choses qui n'ont pas de nom et qui sont punies par la loi. Il faut toujours le rappeler. Un grand merci pour
merci
toutes ces
vous.
Explications. Professeur Rapp, à très bientôt dans Priorité Santé. Un reportage à suivre dans quelques instants. Accompagnement des enfants malades avec des sourires malgré toutes les difficultés. On se retrouve juste après Malamba Kante Musso sur RFI.
Sur RFI.
Et nous nous rendons à présent avec notre reporter Ophélie Lassène dans le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, l'Institut Gustave Roussy de Villejuif en région parisienne. Au chevet des malades, il y a les soignants, les proches, mais aussi les bénévoles de différentes associations. Parmi celles-ci, l'association Princesse Margot, qui accompagne les plus jeunes patients de l'hôpital, notamment à travers son programme des Perles du Cœur. Depuis 2021, les Perles du Cœur mobilisent 15 bénévoles qui se relaient 3 jours par semaine. C'est le cas de Laetitia, que l'on retrouve dans une chambre du 9e étage du bâtiment, le service de pédiatrie qui reçoit les enfants, des adolescents, mais aussi de jeunes adultes.
Qu'est-ce qu'on te doit comme père pour mettre à jour ton parcours, dis-moi?
Déjà, il faut une entrée en hospitalisation.
T'as été hospitalisée où? Ici?
Pour la chimio, oui.
D'accord, pour la chimio. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu les radios avec l'imagerie.
Je m'appelle Shelly, j'ai 21 ans. J'ai dû faire une transfusion de sang, j'ai une baisse d'hémoglobine.
Et tu viens souvent ici?
Oui, je viens au moins toutes les semaines pour des rendez-vous ou pour mes hospitalisations en chimiothérapie. J'ai été diagnostiquée en janvier dans mon Nouvelle-Calédonie.
Est-ce que je peux te demander quel est le diagnostic exactement?
J'ai un sarcome sur la cuisse gauche.
Donc aujourd'hui, tu es venue, tu as récupéré pas mal de perles. Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi, ces perles, à chaque fois?
Pour moi, c'est un souvenir. Quand je sortirai de l'hôpital, eh ben, j'aurai un beau collier. Même si c'est une épreuve un peu compliquée, je trouve qu'il faut avoir des souvenirs de ça.
Est-ce qu'il y a des perles qui t'ont marqué plus que d'autres? C'est-à-dire des moments de ton parcours qui t'ont marqué plus que d'autres?
Oui, j'avais la perle de la chute de cheveux. Il y a la perle de mon anniversaire et j'aime bien parce qu'ils sont vraiment des perles pour toutes les situations, même pour les situations familiales où tu peux choisir ce qui te représente. C'est bien.
Moi, je m'appelle Laetitia, j'ai 43 ans. Je suis bénévole pour Princesse Margot depuis un peu plus de 2 ans.
Et donc, vous avez toujours connu ce projet des Perles du Cœur ?
En fait, j'ai commencé avec ce programme. Et en fait, je suis très, très attachée à ce programme parce qu'il parle de la maladie d'une façon différente. Il permet aux patients de parler de leur maladie à leurs proches de façon différente. Et c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup.
Le moment où vous leur donnez les perles, est-ce que c'est aussi un moment d'échange où ils vous racontent ce qu'ils ont traversé, les moments qui ont été un peu difficiles ?
C'est complètement ça. On parle de la maladie. On ne fait pas que passer pour jouer. C'est vraiment un échange dans tout ce qui est le plus dur de leur parcours et tout ce qui est le plus concret de leur parcours. Et je vois aussi cette force-là de se dire que chaque perle remise, c'est un acte terminé. C'est fait. C'est un combat qui mène de chaque instant. Et quand on leur donne une perle, chaque perle est un instant et un combat difficile passé. Et c'est ça qui est génial et qui, moi, me porte et qui nous porte toutes bénévoles de ce programme-là. C'est cette façon de parler de la maladie, mais d'une façon complètement différente.
Je me dirige maintenant dans la chambre de Maëva, 4 ans, qui va bientôt recevoir ses soins. Et juste avant, elle a tenu à nous montrer son collier. Sa maman l'accompagne.
Alors, je reviens avec Ophélie.
Bonjour, ça va Maëva ?
Regarde ma puce. Tu vas faire quoi aujourd'hui ?
La perle.
Maëva, est-ce qu'il y a une perle que tu préfères ?
Transfusion.
La transfusion. Et vous, madame, vous l'accompagnez un petit peu dans ces moments-là ? Vous lui expliquez à quoi servent les perles ?
Elle sait que chaque fois qu'on voit les dames en t-shirt violet, elle dit « Maman, on va faire les perles. » On va faire les perles, c'est son petit moment à elle. Elle prend le temps de choisir. C'est elle qui choisit toutes les perles.
Ça devient un jeu, en fait.
Oui, elle sait que c'est comme un cadeau. À chaque fois qu'elle a passé une étape, c'est un peu comme s'ils avaient une médaille. C'est comme les généraux. En fait, on voit ceux qui ont plein de médailles, ceux qui n'ont pas encore beaucoup de médailles. C'est très important. Pour nous, ça nous rappelle... tout ce parcours on est passé, parce que avec ça, on voit le petit sourire de la sortie d'hôpital. Elle va grandir avec ça, et quand elle sera plus grande à chaque étape de sa vie, si ses copines lui demandent c'est quoi ces perles, elle saura dire ça c'était la prise de sang, ça c'était chaque fois que j'étais à l'hôpital. Ça fera un sentiment de fierté pour elle, je suis passée par là. J'ai combattu ça, j'ai tenu le coup.
Est-ce qu'il y a une perle que vous attendez avec impatience ?
Je ne sais pas si elle existe, mais...
Elle existe, cette perle ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on attend ?
La perle de rémission, de fin de traitement, oui.
Et elle existe ?
Oui, elle existe.
Et on va la donner bientôt. Ouais.
C'est le bonheur, en fait, de voir tout ce par quoi on est passé, que... qu'elle est là avec nous et l'association, c'est celle avec qui on a le plus de contacts parce qu'elles sont là tout le temps. On les connaît personnellement et ils nous accompagnent tous les jours, les activités, les perles.
Vous vous sentez accompagnée et soutenue ?
Beaucoup, beaucoup. On dit souvent qu'ils sont nos médecins parce qu'on s'occupe de l'enfant avec tout le staff médical, mais pour nous les parents, savoir qu'on est accompagné, quelqu'un qui nous demande comment on va, c'est très important. Ils sont là pour nous, en fait.
Reportage d'Ophélie Lassène et merci à toute l'équipe qui prépare tous les jours votre émission. Demain, nous allons parler d'une maladie infectieuse, la maladie de Lyme, transmise par les tiques, symptômes, le défi diagnostique, comprendre pourquoi cette atteinte bactérienne est au centre de polémique. On se retrouve demain 9h10, temps universel. D'ici là, surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance et soyez couverts en cas de maladie, de perte ou de vol de bagages durant vos voyages.